Salut les amis.
Salut Charline.
Bon bah allez, dites bonjour.
Bonjour.
Mais Charline, t'as des enfants?
Bah c'est pas des enfants.
Ah bah non, c'est les ados, mais justement, mais t'as dû les avoir super jeunes du coup.
Mais enfin, mais c'est pas les miens, c'est les élèves d'interclasse.
Ah,
alors je vous présente Mustapha et Boubacar, qui sont là pour nous voir travailler. Puis les gars, ils sont très très chauds. Hein. Ah les jeunes.
Ouais, ils sont bouillants.
Bah si, bah vous avez la pêche, la super pêche.
Charline, c'est ringard comme expression.
C'est un truc de vieux.
Mais non, c'est une phrase d'Alain Juppé.
Bah ouais, mais c'est un truc de vieux quoi.
C'est qui?
Bah, le maire de Bordeaux, Alain Juppé.
Ah, PJU.
Ah, moi, je connais pas les losers.
Ah, bah, vous voyez, ça y est, bah, c'est deux passionnés d'actu, ça.
Bon,
voilà.
Les jeunes, est-ce que vous êtes plutôt de droite ou de gauche?
Mais moi, je suis droitier.
Vous regardez les JT, non?
Non, on regarde plus la télé.
C'est un truc de vieux.
Ouais, c'est ça, c'est un truc de vieux.
Non, mais attendez, là, vous avez entendu pour Bruno Leroux, c'est terrible.
D'être roux, carrément, ça craint.
Mais non, il est pas roux, il a versé des salaires à ses filles.
T'es chambé.
Ah, quand même, 55 000 euros.
Quoi?
55 000 euros alors qu'elles avaient entre 15 et 16 ans, comme vous, hein.
Mais c'est ouf.
Il est où ce roux?
Bah à l'Assemblée.
Il faut qu'on le rencontre.
Mais pourquoi? Pour l'engueuler?
Mais pas du tout.
Mais pourquoi alors?
Franchement, s'il pouvait nous adopter.
Ah oui, ouais.
55 000 euros, c'est 25 ans d'argent de poche d'un coup. Hein.
Bah, c'est une bonne analyse de la situation, je suis désolé.
Ah bah voilà, bah, vous avez trouvé un sujet, hein, les jeunes, un chapeau. Hein.
Ouais. Chapeau les jeunes, allez, on prend une pause.
Ah, ouais.
Ah c'est ça le travail.
C'est cool en fait, ça m'angoisse déjà beaucoup moi.
France Inter, et merci à Mustapha et Boubacar, élèves de 3e C du collège Pierre de Jeter de Saint-Denis et leur prof Yanis Roder. Pierre de Jeter étant le compositeur de la musique de l'International.
Hey, calmez-vous, calmez-vous.
Vous écoutez l'émission, l'émission qui propose d'installer sa rédaction directement au cœur du parquet financier. Et voici les trois informations qui pourront ainsi fuiter directement jusqu'à vos esgourdes. Il y a un moment où on va bien être obligé de dire tous pourris. Obligé, oui, oui. Maintenant, quand on croise un politique qui n'a pas de casserole, il devient louche.
Et toi, tu t'entends parler avec tes grands principes et ton code de l'honneur? Tu vois où ça nous mène aujourd'hui?
Tu sais ce qu'il te fait, mon code de l'honneur? Il te prend, il te retourne, il te met.
Il existe un endroit en France où l'autre est accepté avec ses différences et où les préjugés s'évanouissent. Cet endroit s'appelle un film. C'est même devenu la spécialité des comédies françaises.
Il se trouve qu'il y a un Chinois, un Français, un Noir, un Belge qui sont sur la tour Montparnasse.
Ouais, c'est ça, je connais la blague. Le Chinois, il tombe et ça fait chin-tok. Bon, c'est très marrant. Mais
la contre-culture. La contre-culture, c'est fini. À partir du moment où une exposition lui est consacrée, c'est mort. Quand aujourd'hui, les artistes sont tous persuadés de faire de la contre-culture, no future... No future is dead.
Comment s'appelle cette recherche en mouvement?
Placenta 2.
Comme le placenta.
Mm-hmm. Mm.
Et moi, je suis accompagnée de celui pour lequel la contre-culture commence, avec Julien Doré. On est bien dans la merde. Alex Bizarrec.
C'est pas loin. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, une équipe formidable, 17h20. Ce fioniste convaincu ne croit pas une seule seconde que son poulain ait pu faire un faux en écriture. S'il y a quelque part du faux dans l'écriture, c'est uniquement dans les chroniques de Pablo Mira. Bonjour.
Salut Alex, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement délicat, la pédophilie. Alors Alex, non, je ne vais pas faire un portrait de la Belgique. Non Charline, je ne lirai pas les paroles du dernier Jean-Luc Lahaye intitulé « Laisse-moi t'aimer dans ta piscine à balles ». Non, là, je vais parler de la Ligue des champions de la pédophilie et du FC Barcelone de l'impunité. Je parle bien évidemment de l'Église catholique. À tout à l'heure, Alex.
Très bien, 17h30, celui qui fait dire à la France ce que parfois elle ferait mieux de nous cacher. Et tout ça sans lui donner des coups de bottin. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben, je suis allé hier soir à un meeting de François Fillon, ça m'avait manqué, pour parler de l'affaire Bruno Leroux, hein, qui ressemble un peu à celle de Fifi. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette dame, par exemple?
C'est gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna.
Voilà, Madame Finkielkraut, hein, qui vous salue.
Et enfin, 17h40, depuis l'arrivée du printemps, elle renaît, car qui dit printemps dit soleil, qui dit soleil dit terrasse, qui dit terrasse dit lecture en terrasse.
Oh, oh, oh,
Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour, avec jolie pirouette. Eh ben moi, je me suis intéressée aux very importantes personnes, et la réciproque n'est pas vraie.
Car voici celui qui a tout annulé pour nous. Vous démarrez comme journaliste à Rock and Folk, que vous écrivez depuis les États-Unis où vous vous installez pendant 7 ans. Vous écrivez aussi pour l'Écho des Savanes. En 90, vous travaillez avec Antoine Decaune pour ses sketchs à personnages dans Nulle part ailleurs. Vous avez écrit 12 romans. Vous collaborez aussi à la revue Schnock, si je ne m'abuse, au Bondy Blog. Et vous avez écrit une pièce de théâtre, Les discours dans une vie, avec Pascal de Molon et Samuel Le Bihan. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Laurent Chalumeau.
Oh, oh il est là, la chance.
Oh oui, il est là.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Bizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bienvenue Laurent Chalumeau. Vous publiez VIP chez Grasset. Le masque et la plume en a dit, c'est un immense polar. Ils ont dit beaucoup d'autres choses, mais déjà rien que ça, boum, ça y est, il n'y a rien à ajouter. Moi, je dirais en plus, rien que le premier chapitre, c'est comme si je m'étais pris le 15 de France dans la tronche et ils m'ont traîné jusqu'à la dernière page, si ça vous va. Alors, un paparazzo a un tuyau pour filmer un plan cul chez une vedette de ciné. Ça tourne au carnage, dont il faut effacer les traces parce que ça risque d'éclabousser le sommet de l'État, plongé dans le milieu politico-médiatico-judiciaire et des VIP, donc. Donc, cette première question, Laurent Chalumeau, la noirceur de l'époque, est-ce qu'elle vient d'en haut ?
Elle vient de partout. Au moment où j'écrivais ce livre, qui était dans un premier temps censé être un divertissement, ça n'est qu'arrivé au bout que je me suis aperçu que, alors que moi je pensais simplement jouer avec les codes du polar, tricoter différents registres que le polar peut adopter, aussi bien la police scientifique type expert, le film d'exploitation de série Z avec demoiselles en détresse et des abominables qui lui veulent du mal, la politique fiction paranoïaque, enfin bref, de mettre tout ça dans un chaudron avec un petit peu de mauvais esprit et partir faire un jogging et voir à quoi ça ressemble une fois qu'on revient. Justement, en fin de cuisson, je me suis aperçu que quand même j'avais été contaminé par la morosité de l'époque. C'est-à-dire que, en fait, l'écriture a enchaîné sur les tueries de 2015. Mm-hmm. Et il n'y a pas de pétard, ça nous a tous quand même un peu chamboulés. Et c'est pas tant les tueries elles-mêmes que les égouts intellectuels que ça a fait déborder. Mmh. Et c'était très dur de se protéger contre les paroles salissantes de tous bords que ça a libéré subitement. C'est-à-dire que tous les surmois qui avaient un peu muselé les imbéciles et les méchants jusque-là se sont volatilisés et la vilainie le disputait à l'ineptie dans ce qu'on pouvait entendre. Et ça ajoutait de l'insulte aux blessures et du malheur au malheur. Et donc, c'est...
Vous vous êtes surpris vous-même, donc, que ça ait tant infusé ?
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvé... Ça, je ne l'ai constaté qu'après, mais en fait, je ne sais pas si ce livre divertit quiconque aujourd'hui, mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a aidé à évacuer des toxines, des exaspérations. Les exaspérations, les indignations, c'est toujours un peu grotesque, certains diraient surtout quand c'est une brochure de Stéphane Hessel, mais en même temps, ça ne se contrôle pas. Et parfois, même quand on a conscience du dérisoire, bien pensant, des bouffées d'irritation qui vous gagne, on ne peut pas les réprimer autrement qu'en les évacuant. Quoi.
Là, c'est documenté, on sent bien votre œil. Vous êtes un peu comme un Houellebecq ou une Virginie Despentes, comme un sociologue. Vous avez, donc, c'est documenté. Donc,
je prends Despentes et je vous laisse le reste. Enfin, je prends Despentes en tout bien, tout honneur.
En tout cas, vous avez diverti du monde parce que le bureau ne parle que de votre livre depuis une semaine.
Je suis désolé, je ne suis pour rien, il ne faut pas m'en vouloir.
Il était temps que vous veniez parce que...
C'est vrai, c'est le bouquin aussi d'un mec qui se trouve un peu en porte-à-faux avec son milieu parce que vous avez un demi-pied dans ce milieu un peu.
J'ai les deux pieds, les deux mains dans la merde, et ce depuis déjà... de longues années, mais en même temps, je peux pas dire qu'on m'ait kidnappé. C'est-à-dire que j'ai jamais été... complètement confortable dans les milieux dans lesquels je me suis trouvé. C'est-à-dire que moi, je suis issu d'un milieu catholique, pratiquant, éclairé, tout petit bourgeois, dont évidemment je n'avais qu'une hâte, qu'une rage quand j'y grandissais, c'était de m'en enfuir. Et à l'époque, ce qui me faisait envie, c'était justement tout le contraire, tout ce qui était frivole, futile, le rock, la contre-culture d'ailleurs de la fin des années 70, qui semble être au menu des
sujets qu'on va aborder.
Plats du jour. Et une fois que je me suis retrouvé, alors des années plus tard, à être, oui, une espèce de fantassin, comme ça, de cette espèce de nomenclatura, vaguement com, vaguement média, vague pseudo-artistique, eh ben, je l'ai pas aimé non plus. C'est-à-dire que pris individuellement, j'ai rencontré des gens absolument formidables, mais déjà, quand on les réunit, bah, c'est un peu comme toutes les corporations, le nombre dessert le groupe, et oui, c'est inversement proportionnel, mais j'ai l'impression que ça n'est jamais aussi flagrant qu'avec des gens qui sont donc vaguement journalistes, communicants, animateurs, comédiens. Et donc, j'aime toujours pas mon milieu. Voilà.
Vous allez vous faire chier jusqu'à 18.
Mais le rock va vous mettre sur la bonne voie. Laurent Chalumeau.
Le rock est en deuil, oui.
Qui publie VIP aux éditions Grasset. Juliette Arnaud va vous en parler dans quelques instants. Restez avec nous jusqu'à 18h. Chalumeau, désannoncer ce disque que vous connaissez par cœur.
C'est pas mal pour un albinos. C'était Johnny Winter, ouais. Jouant Johnny B. Goode, le morceau de Feu Chuck Berry qui nous a quitté. Chuck, si tu nous écoutes.
Gros bisous. Sûrement. Je pense que Chuck, il
nous écoutait déjà avant.
Si il nous écoute, on annule.
Laurent Chalumeau qui publie VIP aux éditions Grasset. Alex Vizorek, vous avez...
Oui, Laurent Chalumeau, moi je vous aime pour une chose, parce que je suis fou d'elle.
Au secours, je tombe.
Oh fuck.
Et ouais.
Ah là, le rock, il en prend un coup dans la gueule.
Vous avez écrit des chansons pour Michel Thor.
J'ai adapté des standards country pour Michel Thor. J'ai massacré à la tronçonneuse des standards country sur Michel Thor.
Je suis comme un dingue. Je vous respecte, voilà. Je m'en fous de votre livre.
Le mec a écrit pour Michel Thor.
Vous saviez que vous fédériez autant? C'est dingue.
Ça, c'est un vrai dandy.
C'est vrai, il y a un peu
c'est
de
décadence.
Il y a un peu de décadence chez Alex Vizorek.
Oui, je demande pardon.
Et autour de la table pour entourer Laurent Chalumeau.
Bah, l'équipe décadente, hein. Donc on a mis Guillaume Meurice, on a mis Pablo Mira et on a mis Juliette Arnaud en avant l'information.
Allez, c'est le moment de l'info où l'info dépasse la fiction.
Mes chers compatriotes, la France n'est pas épargnée par
le journal de presque 17h17.
Vive la France.
Et on commence par les titres.
Les filles de Bruno Le Roux ont donc bénéficié de 24 contrats à l'Assemblée nationale.
En tout cas, on ne pourra pas dire que ce gouvernement n'a rien fait contre lutter contre le chômage des jeunes.
Le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, rallie Emmanuel Macron.
Oui, comme ça, quand ils seront ensemble au meeting, ça fera deux Braillards.
Et des brèves.
Évidemment, puisque Laurent Chalumeau et moi avons les mêmes passions. Michel Thor et des brèves.
Regarde le canard méchant.
Et avant toute chose, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau, l'occasion de rappeler que l'eau n'est pas un besoin, mais un droit.
Oui, une position que partage Juliette Arlot, l'eau n'est pas un besoin.
Bruno Le Roux a donc quitté son poste après seulement 3 mois.
Oui, l'ironie du sort, c'est que contrairement à ses filles, lui n'aura bénéficié que d'un seul CDD. C'est ballot.
Et ce matin sur France Info, le socialiste Alexis Bachelet était bien ennuyé.
Oui.
Je ne vais pas vous dire qu'on a été... ravi d'apprendre ce qui se passait concernant Bruno Le Roux et cette démission.
Ah là là, Stéphane Le Foll l'avait déjà fait, mais aujourd'hui c'est plus drôle. Bruno Le Roux.
C'est Mathias Fekl qui a donc remplacé Bruno Le Roux suite à sa démission du poste de ministre de l'Intérieur.
Oui, il avait déjà remplacé Thomas Thévenoud à l'époque, donc dès qu'il y a un peu la merde, c'est Fekl qui arrive.
Et en démissionnant, Bruno Le Roux a déclaré...
Il a déclaré « Je ne veux à aucun prix que ce débat puisse porter atteinte au travail du gouvernement.
Voilà. » Fillon, lui, il aurait fixé un prix. Hein.
Exactement.
Et lui, il est soupçonné d'usage de faux dans l'affaire Pénélope.
Des faux emplois, des faux documents, que du faux, faudrait quand même essayer de lui arracher les sourcils pour voir.
Passons à Emmanuel Macron.
Oui, qui compte un nouveau soutien. Vous laissez trouver qui.
Et puis aujourd'hui, 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Alors, je m'engage auprès de tous ceux qui sont touchés par le handicap. Et même mieux, je m'engage auprès d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est Catherine Laborde. Évidemment. Le sujet du handicap lui tient particulièrement à cœur. Et c'est pas très gentil de rappeler Emmanuel Macron qu'il a été banquier chez Rothschild.
Éducation. Oui. Depuis ce mercredi, le port du casque devient obligatoire à vélo pour les moins de 12 ans.
Voilà, je vous le rappelle, si dans votre vie, vous ne voulez pas avoir à vous occuper de détails comme ça, le port du préservatif reste nécessaire.
Et c'est aujourd'hui que s'achève à Porte de Versailles le salon de la franchise.
Oui, contrairement au salon de l'agriculture, très peu de candidats à la présidentielle se sont déplacés. Ils ont vu écrit franchise et se sont sentis peu concernés.
Culture, la doyenne du porno japonais a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 80 ans.
Oui, Emmanuel Macron se dit extrêmement triste de cette décision. Des brèves, allez.
Oise, 2 points. Une petite fille de 4 ans appelle les gendarmes parce qu'elle s'ennuie.
Oui, il ne faudrait jamais laisser la fille de Guillaume Meurice seule chez elle.
Et la dernière...
D'après une étude, 44% des Français auraient déjà couché dès le premier soir, tout rendez-vous confondu. Et moi, comme un con, j'arrive systématiquement le 2e soir.
Il est 17h27 sur France Inter. Avec Laurent Chalumeau, on aborde le premier sujet. Rappelez-vous de cette question de Routel Krief au patron du canard enchaîné. Est-ce que vous comptez encore feuilletonner longtemps ce poison lent qui influe sur la campagne? Eh ben, pour une fois, il a eu un bon pressentiment, hein. Il faut le noter. Alors, nous, on en a un aussi sur la teneur du premier discours du prochain président de la République.
Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle.
Silence !
Patrick Devers dans Coup de tête. Alors, il y a du flouze détourné, par des types avec des costards à 10 000. On se demande, qu'est-ce qui lui manque finalement au milieu politique pour qu'il devienne une mafia ? Est-ce qu'il lui manque juste quelques cadavres qui crament dans des bagnoles comme dans votre bouquin, Laurent Chalumeau, pour qu'on passe ce pas-là ?
Belle question. La réponse va forcément vous décevoir. Non. Ce qui me frappe, c'est les montants. C'est-à-dire que comme aurait dit André Rousselet, qui avait dû en voir peut-être même en faire, ce sont des détaillants. C'est-à-dire que tant qu'à se déshonorer, autant rajouter un zéro, quoi. Alors, c'est-à-dire que, en dépit de son crâne dégarni et de la couleur de son patronyme, moi, personnellement, je fais partie des gens qui n'avaient jamais confondu Bruno Le Roux avec Winston Churchill. Mais quand même! Arrêtons de nous cacher derrière nos petits doigts respectifs. dans une espèce d'absolu. C'est pas si grave. C'est de la gnognotte, c'est de la combine, c'est de la bricole. C'est comme le.
Par rapport à tout ce qu'on nous a caché auparavant.
Non, mais c'est comme la crémière que le crémier ne déclare pas parce que ça ferait des charges sociales, mais qui se retrouve en fin de carrière un peu emmerdé parce que du coup elle a pas cotisé. Enfin, je veux dire, c'est du bon taux.
C'est quand même pas les mêmes sommes.
Non, mais c'est à se dire que peut-être ce quinquennat, finalement, contre toute attente, et en dépit que d'aucuns en auront, aura servi à quelque chose parce qu'effectivement, il y a des pratiques qui ne vont plus pouvoir avoir cours. Enfin, sauf si, évidemment, le premier geste de celui ou de celle qui sera élu sera de rétablir dardard de l'opacité et de l'impunité. Mais là, on a quand même l'impression qu'un train a quitté la gare. Et effectivement, il y a certains cheminots qui n'ont pas entendu la sirène et qui se trouvent, pour filer la métaphore ferroviaire, qui se trouvent un peu écrasés par la queue de rame, quoi. Mais bon, alors c'est évidemment, c'est dommage parce que, mais on va dire encore, on veut pas l'accabler, mais monsieur le relou avait le physique de l'emploi, quoi. Effectivement, tout le monde a compris que ça y est, c'était terminé, qu'il y avait, par exemple, Jacques Lang ne se fera jamais gauler. Voilà quelqu'un qui sait humer l'odeur de l'histoire en train de se faire.
C'est un malin, plus malin.
Bruno, le relou, décidément.
Ah ouais, c'est vrai. Et vous posez d'ailleurs la question du statut pénal du chef de l'État dans votre livre, hein, VIP aux éditions Grasset. C'est là qu'on se dit, c'est le bon moment pour se la poser quand même, hein, avec tout ce qui se passe. Et je me permets de lire un petit extrait, surtout parce que tout ça nous offre un boulevard évidemment au Front National. Il y a un moment, il y a un journaliste d'un site un poil racoleur, c'est ça, on peut dire
Oui, enfin, ce serait la version closer de Mediapart, quoi.
Avec un regard cynique, mais néanmoins pertinent, et qui dit à propos du FN qui arrive, etc. On est passé de la moquerie pour les monospaces et les barbecues au mépris pour leurs utilisateurs, de la commisération culturelle à la condamnation morale. Non content de mal vivre, on les accuse de mal penser ou de au moins de voile, pardon, de mal penser ou du moins de mal voter. C'est ça le retour de bâton, le vote d'extrême droite. C'est dans VIP, paru chez Grasset, très mal lu de ma part. Excusez-moi, Laurent Chalumeau.
Si c'est mal lu, c'est que ça avait été mal écrit. Hein,
non, c'est pas vrai. Au contraire, dans un style incroyable. Et Juliette Arnoux nous en parlera tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, tout de suite? Je vous propose de passer la parole à notre éditorialiste, mais aussi réalisateur, puisqu'il tourne en ce moment son premier long métrage, Ragnout of Africa. Voici Pablo Mira qui va revenir sur le cash investigation d'hier qui a dévoilé un nouveau scandale de pédophilie au cœur de l'église catholique. Dans ce documentaire, l'église de France est accusée d'avoir couvert les agressions sexuelles sur mineurs de dizaines de prêtres.
Oui, merci Charline de me passer la parole. Alors depuis hier soir, c'est donc une certitude. Quand une blonde hystérique vous poursuit sur 2 kilomètres, ça ne veut dire que 2 choses. Soit vous êtes Ryan Gosling, soit vous avez énervé Élise Lucet. Alors on va pas y aller par 4 chemins. Moi, j'ai trouvé ce documentaire, Charline, je vous le dis, honteux et incroyablement à charge. Moi, je vous le dis tout de suite, non, tous les prêtres ne sont pas pédophiles. Madame Lucet, la plupart vivent en toute légalité leur misère sexuelle. Ce qu'on a vu hier, franchement, c'est pas du journalisme. On essaie juste de transformer l'église catholique en bouc émissaire en s'attardant uniquement sur des agressions pédophiles de prêtres sur des enfants et jamais, je dis bien jamais, sur les agressions pédophiles de prêtres sur les adultes. Voilà, c'est juste malhonnête. C'est malhonnête, Alex, de faire passer l'Église de France pour le mauvais élève de la lutte contre la pédophilie. Non, l'Église de France, c'est pas Jean-Marc Morandini. Puis excusez-moi, mais l'Église, c'est peut-être pas la seule fautive dans l'histoire. Moi, je me pose juste la question de la responsabilité des parents dans tout ça. Parce que non, on ne confie pas son enfant à un prêtre catholique. Comme on ne confie pas ses frites à Gérard Larcher quand on doit aller aux toilettes. Après, attention, je ne dis pas que l'Église n'a aucune part de responsabilité. Je suis quand même le premier à dénoncer le fait que le vœu de célibat favorise les actes de ce genre. C'est pour ça que les prêtres, moi je pense qu'il leur faut un service de soutien psychologique efficace. Et ce service, Alex a eu la gentillesse de me le faire découvrir tout à l'heure, il se trouve dans la section Big Tits de Pornhub. Moi je dis juste qu'on fait pas beaucoup d'efforts pour comprendre pourquoi l'Église ne dénonce pas ces horreurs. Pourtant, un prêtre anonyme l'a très bien expliqué dans l'émission d'hier Cache Investigation en déclarant, je cite, nous avons un devoir de charité par rapport à un frère prêtre, il faut lui donner une chance de se repentir. C'est ce que l'Église appelle en latin le fameux « t'inquietum mon potus, je te couvrum, mais reste discretus ». Plus clairement, c'est simplement l'application du fameux adage « aide-toi et le ciel t'aidera à fuir au Mexique ». Là-bas, contacte Armando, il te trouvera une piole. Voyez, il suffit juste quelque part de comprendre que les religieux suivent avant tout les lois de Dieu. Et c'est vrai qu'il est écrit sur aucune table de la loi « tu ne feras point ce que Michael Jackson faisait en cachette dans son ranch de Neverland ». Alors, pour se défendre, Élise Lucet, qu'est-ce qu'elle fait, Élise? Eh ben, dénonce le silence de l'Église qui a refusé toutes leurs demandes d'interview. Mais le degré de mauvaise foi de cette journaliste, la mauvaise foi, je veux dire, c'est pas compliqué quand on fait bien son boulot de journaliste. Si le pape ou les évêques refusent de répondre, on fait quoi? Eh ben, on vise quelqu'un de plus haut placé. Je vais vous montrer la régie. Vous pouvez composer le numéro du paradis, s'il vous plaît? Ça sonne.
Bonjour, vous êtes sur le serveur vocal du Royaume des Cieux. Pour être mis en relation avec un ange, tapez 1. Pour le service réincarnation, tapez 2.
Non, hein.
Pour envoyer un don à François Fillon, tapez 3. Non. Pour déclarer un acte de pédophilie au sein de notre église, tapez 4.
On tape 4, évidemment, la régie.
Votre temps d'attente est estimé à 1586 ans.
Bon, on va faire ça une prochaine fois. On rappellera une autre fois en heure creuse. Pour conclure, moi, je dirais juste qu'il y a quand même un vrai problème de pédophilie au sein de l'Église catholique, mais on sait aussi que l'Église est parfaitement consciente de ce problème. Maintenant, il faut juste que les prêtres, assimilent une bonne fois pour toutes qu'un être humain non consentant, bah en fait, c'est un peu comme les voix du Seigneur, c'est et ça doit rester impénétrable. Allez, salut.
Merci Pablo Mira, éditorialiste à Vanneurs Actuels sur France Inter, en compagnie de Laurent Chalumeau qui publie VIP aux éditions Grasset. Et comme je me suis vautrée à la lecture précédente, je vais prendre un de mes passages préférés sur le milieu médiatique. Celui-là, je ne vais pas le louper, je vais vous le dire, ça. 30 ans à dire aux gens ce qu'ils doivent penser. 30 ans à copiner, lécher les boules en faisant semblant d'être insolent. 30 ans à jouer aux mêmes chaises musicales que les autres pourris dans le même mercato truqué pour diriger les mêmes rédacs. 30 ans à faire partie de la clique, de l'élite médiatoque, celle qui se décerne des prix, crée des clubs de cigares ou se partage la rente des matinales radio. Putain, c'est bon. C'est VIP, c'est Laurent Chalumeau qui est avec nous jusqu'à 18h avec Juliette Arnault qui va nous reparler du roman, avec Alex Vizorek qui est chaud bouillant, bien sûr, et Guillaume Meurice qui n'a pas perdu sa soirée, Laurent Chalumeau, moi je vous le dis.
Ben, hommage aujourd'hui, hommage à Bruno Leroux, encore un petit gars tombé pour la France, mon gars Bruno. Juste un brave mec qui voulait nourrir ses mômes. Vous vous rendez compte dans quelle époque on vit? Alors je suis allé auprès de ceux qui sont habitués à ce genre de calomnie, les militants de François Fillon. Il était en meeting hier à Courbevoie. Alors quand je suis arrivé près de la salle, stupeur, j'ai vu des flics partout. Je me suis dit, merde, ça y est, il s'est fait choper, Fillon. Ils ont réussi à l'embarquer. Et en même temps, je me suis dit, c'est pas con de la part de la police. Un meeting de droite dans les Hauts-de-Seine, c'est l'occasion d'un bon coup de filet. Il y a juste à bloquer la porte de la salle et hop, tu les tiens tous d'un coup. Tu marques centre pénitentiaire sur le mur et tu vas te coucher. Pas du tout, pas du tout. En fait, les flics étaient là pour protéger les suspects. C'est assez nouveau comme technique. Alors, j'ai pu rentrer tranquille et interroger donc les militants de François Fillon sur l'affaire Leroux.
Est-ce que vous avez un petit mot pour Bruno Leroux ce soir alors?
Oh ben, écoutez, c'est comme a dit Ciotti, bon allez, on est pas socialistes nous, donc on porte pas de jugement.
Est-ce que François Fillon va pas s'en inspirer du coup?
Non mais faut pas, il y a la présomption d'innocence et puis faut arrêter avec ça quoi.
Oui mais c'est un peu la même situation, c'est pour ça que je vous pose la question.
Mais des fois on n'a pas envie de vous répondre.
Ouais, bien sûr, beaucoup d'émotions hein. Hier, la gorge serrée, on a du mal à trouver les mots. Alors Bruno Leroux, il a embauché donc ses deux filles, ses deux Pénélope, comme on a envie de les appeler. Mais attention, je dis attention aux amalgames.
Ne mélangez pas tout.
Aidez-moi à y voir plus clair.
Avec de l'idéologie, d'accord. Et puis des gens qui font leur travail correctement.
Ah oui, mais moi j'avais l'impression que c'était la même situation. Alors. Dites-moi quelle est la...
Ça c'est votre impression, c'est pas la mienne.
Ah oui, mais dites-moi quelle est la différence.
Ben, il y en a une énorme, c'est que des gens qui sont là uniquement pour la gamelle et qui donnent des leçons.
Alors ça c'est François Fillon?
Non.
Ah.
C'est Leroux et toute la clique, les socialos, bobo ou pas bobo d'ailleurs, mais bien gras.
Oui, alors attention, bien gras les socialos, bon, si on veut partir sur ce terrain-là, attention quand même, hashtag Gérard Larcher, j'ai envie de dire. Mais bon, élevons le débat quand même, avec des élus cette fois-ci des Hauts-de-Seine, la maire de Puteaux, Joël Sécaldi-Rénan, était là.
Oui, vous la connaissez, c'est celle qui met des amendes aux pauvres qui fouillent les poubelles dans sa ville. Et c'est celle aussi qui planque des lingots d'or au Luxembourg. Hein. On l'a appris ça grâce à des journalopes gauchias des merdias du système. Alors, Jojo, l'affaire Leroux, qu'est-ce qu'elle en pense?
Moi, je suis là pour soutenir François Fillon jusqu'au bout. Et je trouve que quand même, il n'en a pas ménagé. Après, on verra.
Bon, vous, ça va plutôt? Tout va bien?
Tout va bien, tout va bien. Jusque-là, tout va bien.
J'avais cru qu'il y avait une histoire de lingots d'or. C'est fini,
bien
ça?
Bien sûr. Écoutez, on vous en parlera. Hein,
voilà. Voilà, on va attendre. Alors, on va attendre peut-être un petit peu plus tard. On bouge pas, hein, Joël. Hein, dès que vous voulez en parler, vous connaissez l'adresse. Alors, ben, en attendant, évidemment, on va quand même aller voir le boss, hein, le caïd, j'ai envie de dire, du 9-2. Patoche. Et là, il était là. Don Balkany, hein, de Levallois Perret. Il était en voisin, donc, hier soir. Est-ce que lui, il a une réaction sur l'affaire Bruno Leroux?
J'ai pas de réaction. Monsieur Leroux a démissionné. Sûrement, il avait de bonnes raisons de démissionner. Et puis, s'il a pas démissionné, c'est qu'on l'a poussé dehors. Bon, ben.
Bon, vous en avez pas marre de toutes ces politiques qui magouillent quand même?
Vous avez raison. Hein. C'est un drôle de milieu. Hein.
À qui le dis-tu, Patoche? On en a connu des comme ça, hein, des qui avaient l'abus de bien social dans la peau, la prise illégale d'intérêt dans le sang. Ah là là là. Allez, continuons avec Patoche.
Heureusement que je ne me représente pas aux législatives. Ah hein. Oh là là.
Hein. Ah non, mais je pensais pas à vous.
Non, mais c'est pas ça. Hein. Vous savez, on est aujourd'hui dans une situation qui est malheureusement grotesque et qui fait que les Français sont quelque peu déboussolés. J'ai un peu peur de leur réaction. Et peut-être...
Vous avez peur des Français?
Non. J'ai surtout peur qu'ils aient plus envie de participer à tout ça.
Ah là, ça craindrait vraiment, ça c'est vrai. Si les Français deviennent moins cons et arrêtent de voter pour des corrompus, ils vont être mal les Balkany et consorts. Ça fout les jetons. Pensez qu'un jour, ils pourront peut-être plus employer leur famille à rien foutre avec de l'argent public. Tiens, d'ailleurs...
Bon, puisqu'on parle famille, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de votre fils?
Bah, très bien, je vous remercie. Il a passé une épreuve qui n'a pas été facile pour lui. Et tout
est-ce qu'il ne s'est pas radicalisé en prison?
On a fait en sorte qu'il ne puisse pas se radicaliser. Et pour ça, on a fait en sorte qu'il ne soit pas à côté de ceux qui auraient pu le radicaliser. Mais quand même, il m'a dit qu'à Fleury, de jour comme de nuit, on entendait Allah Akbar toute la journée et toute la nuit.
Ah, heureusement qu'il nous reste les musulmans. On va pouvoir continuer à faire croire que le danger vient de l'islam et pas de ceux qui se gavent de pognon et qui créent des inégalités. Espérons pour eux que ça continue comme ça encore longtemps. Inch'Allah.
Merci Guillaume Meurice. On attend qu'il se convertisse. Hein,
et merci Patoche.
Fillon, parloir.
Laurent Chalumeau est avec nous jusqu'à 18h. Et on va aborder un deuxième sujet. Quand un journaliste allemand observe les comédies françaises qui sortent au cinéma, il fait ce constat. Eh bien, La Famille Bélier, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ou Médecin de campagne révèle un besoin pressant des Français d'intégrer la différence, le bizarre, le déroutant. Notre société n'y parvient pas dans le réel, alors elle vit son idéal dans la comédie française.
J'ai vu le médecin et j'ai une tumeur et une pneumonie et le choléra. Et une mauvaise conjonctivite.
Alors il faut que tu saches que je ne suis pas ta mère.
Et moi je te regardais sous la douche quand on était petits.
Mais on est frères.
Oui. Dis quelque chose.
Je ne peux pas.
Pourquoi?
Parce que je suis juive et que je vais épouser un musulman qui fuit la guerre civile dans son pays. Et il est aveugle. Et il n'a pas de papier. Et en plus il est malade, il va mourir.
Vous avez reconnu Pablo?
C'est le palmacho?
Oui, c'est le palmacho. Alors c'est un article du Tagesspiegel, paru dans le hors-série du Courrier International. Ce hors-série s'appelle France, le temps des révolutions. Alors, du point de vue allemand, la comédie française, elle a renoncé à être dérangeante et elle préfère nous servir une morale sur l'acceptation de l'autre. Est-ce qu'on peut, grosso modo, faire ce constat? Je ne sais pas si vous êtes friand de comédie française, Laurent Chalumeau.
Non, j'essaye de me protéger. mais pour autant, je trouve le papier vraiment de totale mauvaise foi. Et c'est un exercice qui est bien mené, mais je le trouve assez vain parce que j'aurais presque envie de, à propos de ces films que donc je veille à m'épargner, j'ai envie de retourner le sablier. J'en ai quand même vu quelques-uns, par exemple, je sais pas, Les Ch'tis, La Famille Bélier, etc.
Intouchable.
Intouchable. Et j'ai plutôt envie de retourner le sablier pour dire que ce sont des comédies populaires qui prétendent pas faire avancer le schmilblick, mais qui donc
doivent plaire à plein de gens.
Appliquent des codes. Enfin, ça, bien sûr, leur vocation est de réunir le plus grand nombre possible de spectateurs, ce fût-ce au prix d'une certaine subtilité. Mais donc, elles appliquent des codes éprouvés. Elles sont évidemment le reflet d'un certain académisme narratif, mais ça n'est pas une surprise. Elles prennent personne en traître. Je pense qu'une fois qu'on a admis, pour aller dans le sens du journaliste, que bon, puisque ce sont des comédies populaires, c'est donc de la merde et des robinets à idéologie, mais jusque-là, on peut le suivre, essayons plutôt de voir, avec une pince à épiler, ce qui peut y être isolé et rescapé. Parce que certes, ce sont des robinets à idéologie, mais elles sont quand même représentatives d'une certaine inflexion de l'air du temps, c'est-à-dire que les pataugasses dont les auteurs se chaussent pour essayer d'alerter les consciences sont certes lourdement semelées, c'est des bonnes intentions dégoulinantes, mais ce sont de bonnes intentions. Peut-être que c'est maladroitement fait,
mais ça, ça étonne un Allemand, par exemple.
Oui, mais c'est pas, pour autant, c'est pas le juif sus, c'est pas des incitations à la haine raciale, c'est plutôt, oui, des films un peu cuculapraline, mais s'ils ne font pas beaucoup de bien, ils font pas autant de mal qu'on dit, et une fois de plus, c'est un peu trouver que l'eau mouille que de dire qu'une comédie populaire a tout fait pour être populaire, c'est se foutre de la gueule du monde. Mmh. C'est pas des comédies d'avant-garde.
Et dans le fait que le point commun, c'est l'inclusion de l'autre, c'est une forme d'obsession apparemment d'inclure, d'accueillir, le fait qu'il y a un a priori au départ, puis ça se passe bien. Bah,
oui,
c'est dans le réel aussi.
Il y a des contes de Voltaire qui ne racontent rien d'autre. Enfin, après, évidemment, tout est dans l'épaisseur du trait, ou la finesse de l'exécution. Mais franchement, j'ai trouvé le papier. Non, mais ça ressemble à une espèce de devoir de fin d'étude, quoi. C'est un numéro de trapéziste, mais un peu vain.
Ils ne nous écoutent pas, donc c'est pas grave. Peut-être aussi le fait qu'une excellente comédie allemande qui s'appelle Tony Herman est radicalement différente de ce qu'on peut voir. Et pourtant, a eu du succès. Oui, un succès d'estime.
Oui, mais elle dure 3 heures aussi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est la comédie allemande, qu'est-ce que vous voulez. Laurent Chalumeau, eh bien, Juliette Arnault a lu également VIP aux éditions Grasset.
Oui, et alors un livre dédié à la personne qui va suivre a le pouvoir de me mettre instantanément dans de bonnes dispositions. Qualifier mademoiselle Rebecca Dolly Parton de féministe sous-évaluée, c'est pas hasardeux en fait, parce que c'est vrai qu'à un moment dans la chanson elle dit « It's a rich man's game, no matter what they call it ». C'est féministe, voire c'est même marxiste. Mais bref, c'est pas la question. Revenons encore un petit moment aux bonnes dispositions. Oui, alors les bonnes dispositions, croyez-moi, c'est absolument nécessaire d'être bien disposé parce qu'ensuite, bon Dieu de bon Dieu, la lecture du livre, c'est hardcore. J'espère que vous avez profité de la pause fraîcheur avec Dolly parce que j'annonce fin du bal. Première phrase du livre. Deux points, ouvrez les guillemets. À présent, dans le dressing, il fouille ses tiroirs à lingerie. Alors quand on est une femme, on serait dit d'entrée de jeu, même si on ne connaît pas le « il ». Et puis le « il est au pluriel. Et puis il y a ce verbe fouiller. Alors on a bien raison de se redire, parce que ça c'est qu'une mise en bouche, ensuite c'est gratiné, ça dérouille velu, ça bombarde, mais dur. Ça commence comme un cambriolage qui vire à l'agression sexuelle, au pur cauchemar, parce que le « il », deux types, n'ont pas prévu que la propriétaire des lieux serait là. Et que la propriétaire des lieux est une vedette. Et qu'un paparazzo remonté à bloc contre la vedette en question, shoot et filme la scène, en se gardant bien d'intervenir. En tant que lectrice, tu commences à être pas bien, plus trop sûr que ton déo tenu 48 heures, il y avait parabènes et de sel aluminium, va faire le taf. Et puis là, l'amant de la vedette rentre dans l'appart. Toi, dans ta tête, tu te dis, ça va aller, parce que t'as besoin de respirer, de croire, tu suffoques tellement que tu croiras en Raël. Et pan, c'est pire. Là, ça vire fait divers sanglant, plus affaire d'état. Et ton cœur, ami lecteur, il va falloir qu'il continue à numéroter ses abattis, parce qu'après, ça persévère dans l'avoinage caractérisé du mauvais esprit, un panoramique de l'état actuel de nos élites politiques, médiatiques, policières, judiciaires, une galerie de personnages assez infects. Alors tu ris un peu, tu te dis, mais c'est pas possible, il va quand même pas s'en sortir. Rire machiavélique, c'est qui il? T'es vénère, et heureusement, soupir de soulagement, il y a une fliquette d'enfer et une juge à l'avenant, merci pour elle, merci pour nous, surtout. Au centre de cette galerie d'enfoirés, il y a un personnage, celui du paparazzo, qui est détenteur d'un scoop stratosphérique. Sauf que le scoop en question, il est plus proche de l'anneau du Seigneur des Anneaux que de la bénédiction. Un fouille merde. On retrouve ce verbe au début du roman, hein, fouiller. Alors, de qui on parle pour fouille merde? Du petit moustique, le paparazzo ou de l'écrivain? Non, je me posais la question en vous lisant Laurent Chalumeau. Non, parce qu'après tout, il y a des parallèles. D'un côté, l'écrivain, des années d'exposition aux mondanités et aux mondains, il faut bien les connaître pour les écrire. Il y a forcément une part de fascination qui s'y glisse, une part de vampirisme. Il y a eu des exemples fameux comme Proust, qui pour créer la Duchesse de Guermantes s'est inspiré de la Comtesse de Greffule, qui l'a moyennement pris, hein, et on la comprend. Truman Capote, méfiez-vous, on lui a pas pardonné le livre de trop, Prières exaucées, où il a passé au vitriol la haute société new-yorkaise qui, du coup, l'a ostracisé. Et donc, de l'autre côté de l'écrivain, il y a le paparazzo, Patrice Corso, le petit moustique. Alors, personne n'aime les moustiques, hein, et réciproquement, il fouille, il fouine, il pisse, il est spécialiste également de la vie privée, comme les écrivains, de l'intime, et qui, ces derniers temps, qui sortent de la vie des stars pour envahir le domaine politique. Hein. Hollande, en scooter, Philippot, en couple avec un monsieur, et même maintenant, les paparazzi, on les voit dans les musées. De là, je me disais, mais alors, monsieur Chalumeau, dans les rêves, on dit que le rêveur, il est tous les personnages. On peut supposer que dans un roman, l'auteur, il est un petit peu dans tous les personnages. Alors je me disais, mais c'est lequel de tous ces personnages pas super ragoûtants à qui vous ressemblez, vous? N'hésitez pas à me répondre. Merci, bisous, merci.
Évidemment, les pires. Si vous voulez que je vous réponde, je suis démasqué. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'inconfort dans son milieu, mais je pense que c'est toutes les positions sociales ne requièrent pas cet exercice ou cette discipline, mais je pense que quand on a le privilège de vivre de sa plume, la moindre des choses, et d'ailleurs une bonne combine pour essayer, en dépit des limites vite atteintes de son propre entendement, une bonne combine pour réussir quand même à produire un peu de sens, c'est d'écrire, comme on dit un peu pompeusement, contre soi, ou de penser contre soi, et pas toujours consciemment, mais il semblerait que singulièrement dans l'écriture de ce livre-là, c'est ce que je me suis retrouvé à faire. Et quand je vois les commentaires extasiés sous lesquels vous m'ensevelissez depuis tout à l'heure, je me dis que cette espèce de gymnastique à contre-courant n'y est pas forcément pour rien. C'est peut-être ponctuellement douloureux pour les lombaires de vouloir faire de l'autofellation en passant par derrière, mais écrire contre soi à la fin du jeu s'avère payant.
Vous êtes un peu l'ennemi de l'intérieur de ce milieu de VIP, quoi.
Voilà, je suis embedded, comme on dit.
Et l'ennemi de l'intérieur, c'est le pire. Donc c'est VIP aux éditions Grasset par Laurent Chalumeau. Merci beaucoup, Juliette Arnaud. On peut réécouter votre chronique sur franceinter.fr, hein, tout comme celle de Pablo Mira ou de Guillaume Meurice, si vous voulez réentendre Balkany dire que tout va mal et que tout va bien. Allez, troisième sujet, dans cette époque qui a un parapluie dans le cul, et ouvert le parapluie. Hein. Vous seriez bien content de vous vautrer dans de la contre-culture. Hein. C'est possible, mais au musée. C'est l'esprit français contre-culture 1969-1989. C'est une exposition à Paris pour se faire un petit shoot. Et oublier, parce que quoi, en contre-culture, il reste quoi, des trucs comme ça, par exemple, je sais pas.
Que la nuit vienne. Que vous me chevauchiez, me prenant pour une de ces chiennes hautaines dont vous régalez vos hampes en pesée. Que je vous donne ma vérole marxiste et que je contamine votre grandeur impérialiste. Car le nivellement viendra par le bas, par au-dessous de la ceinture.
Mais la Terre tourne inexorablement.
La Terre tourne inexorablement.
Bon, bah stop. On arrête alors. Hein. Pause café, on arrête.
Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Alors, c'est un article à lire dans Les Arocs qui paraît aujourd'hui sur cette exposition qui a lieu à Paris, à la Maison Rouge. Esprit français, es-tu là? C'est le titre de l'article. Le titre de l'expo, c'est l'esprit français contre culture 69-89.
Très belle couverture des Arocs avec vos deux idoles, si je peux me permettre, monsieur Chalumeau.
Là, c'est la pub.
Ça, c'est une Fillon et Chuck Berry.
François Fillon et Chuck Berry.
Deux idoles. Pour qui contre culture? faut qu'il y ait une culture dominante. Mais là, on est dans un tel magma que la contre-culture, elle est absorbée. Est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce qu'elle est là? C'est quoi? Moi, je me suis dit, si on a Laurent Chalumeau, il faut qu'on lui pose la question.
C'est-à-dire que vous ne pouviez pas mieux tomber parce que, effectivement, moi, j'ai connu les Trente Glorieuses, la Pompidolie aujourd'hui idéalisée, le Jacques Martin et Stéphane Collaro est brandi comme fer de lance de l'irrévérence et de l'humour cathodique. J'y ai survécu, mais je peux vous dire que c'était pas des vacances. Il faut se représenter quand même une France où il n'y avait que trois chaînes de télévision, trois stations de radio et demi, pas de FM, pas d'internet, rien. Et c'est vrai que la contre-culture ou la possibilité de son existence pour l'adolescent ingrat que j'étais faisait envie. C'était une espèce de continent à aller explorer, mais j'avais un caban, des Clarks et une écharpe tricotée. Et le propre de la contre-culture, bah, c'est d'être difficile à atteindre. Elle est forcément un peu excluante. Et quand j'ai pris connaissance, souvent après les faits, de ce qui constituait la contre-culture française de l'époque, je me suis dit que, sur le coup, ceux qui avaient incarné ces marges avaient dû bien se fendre la gueule. Mais pour autant, je suis ravi pour eux qu'une exposition leur soit consacrée, mais à l'exception éventuelle de trucs comme Bazooka, qui sont effectivement des marqueurs et des choses qui ont renouvelé un peu la grammaire dans leur registre, les agitprop et les outnanises de groupes de sympathiques lesbiennes rouges, ça a dû les défouler, mais ça, c'est pas non plus des pierres porteuses. Mmh. Apportée aux fondations du patrimoine de l'humanité. Voilà, c'était marrant. Mais...
Et l'article cite par exemple le drapeau tricolore souillé par Michel Journiac, une toile de 73. Et puis hommage au putain inconnu représentant un squelette en lieu et place d'un soldat devant les couleurs de la France. Si ça se faisait aujourd'hui, oh putain, nom de Dieu. Allez, on est avec Laurent Chalumeau et on va profiter des quelques minutes qui nous restent avec vous pour vous proposer un rôle.
Un rôle dans
chaussez vos lunettes.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Aujourd'hui, la thématique qui nous a semblé évidente, c'est François Fillon coaché par SMS pendant le débat sur TF1.
Ah oui, véritable information.
Anne Méo lui envoyait des textos qu'il lisait, c'est pour ça qu'il avait l'air parfois déconcentré. Et en fait, il s'avère que dans l'histoire, c'est une méthode qui est revenue très régulièrement. On va se faire un petit voyage dans le temps. Déjà, le général de Gaulle à Montréal.
Je vous ai compris ! Oh merde, un texto. André Malraux, mon général, on est au Québec, c'est l'autre discours. Ah oui, flûte. Vive le Québec libre ! Oh merde, qu'est-ce qu'il a encore ? C'est pas comme ça que vous allez faire le buzz. Ok, bon. Dans 50 ans, qui imagine François Fillon mis en examen ?
En Inde aussi, Gandhi utilisait cette méthode.
La violence, c'est mal. Un texto ? Mais je suis en plein discours devant 1 milliard d'Indiens. Il exagère, c'est Nehru. Pour emporter la foule, il faut du fight, mec. Je me relance et là, je vais m'énerver. Cher peuple, la violence, c'est vraiment très mal.
Marie-Antoinette également avait un super bon iPhone.
Je déteste le travail mal fait. Vous êtes sûr que la lame est bien aiguisée? Pourquoi Louis m'écrit? Barre-toi, ça va mal se terminer. Monsieur Lalame, c'est bien pour me couper les cheveux, non? Oh merde encore. Pourquoi j'ai épousé la moins maligne d'Autriche? Ah, il a dû se tromper, c'est pas pour moi ce message. Hey, monsieur, attention avec l'âche là, vous allez vous couper la corde là. Ah,
c'est la même voix que Nathalie Kosciusko-Morizet.
Ouais,
ouais,
il y a une vraie filiation. Et elle ne reçut jamais ce dernier message disant « Moi aussi je perds la tête ». Winston Churchill, au début de la Deuxième Guerre mondiale, s'adressant à la nation.
« Détruit de la cervelle des morts ». Mais qu'est-ce que c'est que ce texto? Keep cool Winston, ok. Des fleurs, des oiseaux et des petits chats. Ah, oh, qu'est-ce que c'est Winston, là c'est trop. Ok, du sang, de la sueur et des larmes.
À Berlin, 1963, Kennedy s'adresse aux Allemands.
Ich bin ein Berliner. Mon conseiller me dit, n'oubliez pas les Français. Ok, en plus d'être un Berliner, je suis Charlie.
Et plus récemment, Emmanuel Macron en meeting à Lyon.
Parce que c'est notre projet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, plus fort. Ah, ok. Parce que c'est notre projet.
Ta gueule.
Tout ça pour ça.
Ah ouais, c'est la nouvelle méthode. tête des Spin Doctors, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a des gratinés dans le roman de Laurent Chalumeau, VIP, publié chez Grasset. Et puis, si vous suivez de près l'actualité, que vous êtes documenté, vous reconnaîtrez certaines personnes, mais il y a des mélanges. Hein.
C'est composite.
C'est
voilà.
Très composite.
Comme vous avez pu le constater, j'étais au cours Florent avec Ariel Dombal.
Comme professeur, du coup.
Laurent Chalumeau, VIP chez Grasset. Merci beaucoup, Laurent.
Nous
serons demain en direct du studio 104. Venez. Figurez-vous qu'il reste des places. C'est le studio est immense.
Oui,
venez de 18h à 20h. Nicolas Demorand recevra Nicolas Hulot, puis nous, on sera là aussi. Et nous laissons le mot de la fin au prochain président de la République.
Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle.